Chapitre 11. Baruch Spinoza. L'infréquentable. La volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance. L'histoire familiale de Baruch Spinoza est assez mouvementée. Son grand-père, Isaac Rodriguez de Spinoza, est issu d'une famille juive espagnole ayant émigré au Portugal après le décret de l'Alhambra en 1492, forçant les juifs d'Espagne à choisir entre l'exil et la conversion. Vers la fin du XVIe siècle, l'Inquisition espagnole commençant à inquiéter aussi les Juifs du Portugal, Isaac et sa famille quittent Lisbonne, rejoignent d'abord Nantes en France, puis les Provinces-Unies, actuels Pays-Bas, où, quelques années plus tard, en 1632, naîtra le petit Baruch. Celui-ci est étudié dans une école juive où son intelligence est remarquée et le promet à un avenir brillant. Ses parents le destinent au rabbinat, mais à la mort de son frère aîné, le jeune Spinoza interrompt ses études pour venir travailler dans l'entreprise familiale d'import-export. Vers 20 ans, il commence à suivre l'enseignement de Franciscus van den Enden, ancien jésuite, libre penseur, anticlérical et probablement athée, qui l'introduit à la philosophie moderne et notamment à Descartes. C'est en 1656 que se produit l'un des événements les plus marquants de sa vie, qui n'en est alors qu'à sa 24e année. La communauté juive d'Amsterdam prononce contre Spinoza un « herem », équivalent d'une excommunication. Les termes en sont particulièrement vigoureux. Lui sont reprochés ses horribles hérésies et ses actes monstrueux, sans plus de précision, et il s'ensuit une litanie de malédictions. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, veuille l'Éternel allumer contre cet homme toute sa colère et déverser sur lui tous les maux mentionnés dans le livre de la loi, que son nom soit effacé dans ce monde et à tout jamais. Sur ce dernier point, force est de constater que la malédiction n'a pas empêché Spinoza de rendre son nom célèbre. L'Éternel, s'il existe, n'est pas si rancunier ou a un certain sens de l'humour. Qu'a-t-il donc fait de si terrible pour s'attirer de telles foudres? Nous n'en savons rien. Il n'est pas impossible que ce ne soit lié qu'à d'obscurs problèmes légaux dans la succession de l'entreprise familiale, mais le plus probable est que Spinoza ait commencé à faire état d'opinions fort peu orthodoxes sur la religion, Dieu, l'âme et la liberté. Il n'avait cependant rien publié, et l'on peut trouver frappant à ce titre que le RM s'achève sur cette interdiction « que personne ne lise aucun de ses écrits ». Peu d'auteurs ont la chance de voir leur œuvre condamnée avant même qu'elle existe. De fait, l'œuvre sera aussi scandaleuse qu'il fallait le craindre ou l'espérer. En 1670, Spinoza publiera anonymement le Traité théologico-politique qui, comme son titre l'indique, touche à d'épineuses questions de théologie et de politique. Faut-il, en matière de religion, restreindre la liberté de philosopher? Pour Spinoza, la réponse est un grand non. Cette liberté non seulement n'est pas nuisible, mais elle est même salutaire. Et comme si cela ne suffisait pas, Spinoza a sorti son propos d'une critique rationnelle et historique des textes sacrés, particulièrement provocante pour l'époque. Le traité sera attaqué de toutes parts. On ira jusqu'à parler d'un livre forgé en enfer par le diable lui-même, ce qui donne plutôt envie de le lire, vous en conviendrez. Et l'ouvrage sera interdit par les autorités des Provinces-Unies. Dès lors, Spinoza renonça à publier, mais pas à écrire. Il travaillera toute sa vie à son œuvre maîtresse, l'Éthique, qu'il ne fit pas imprimer de son vivant. C'est après sa mort, en 1677, que le texte sulfureux sera édité et commencera à circuler. L'Église le mettra à l'index, ce qui est la moindre des choses. De fait, presque tous les auteurs de cette période, et notamment tous ceux dont nous parlons dans ce livre, s'y sont retrouvés pour un ouvrage ou un autre. Si ce n'était pas l'index Librorum Prohibitorum, index des livres interdits, ce serait une liste de recommandations de lecture du meilleur goût. Et le spinozisme restera longtemps perçu comme une doctrine des plus infamantes. Accuser votre interlocuteur d'être un dangereux spinoziste était un moyen commode de l'emporter dans un débat philosophique au XVIIe et XVIIIe siècle. Cela n'a plus la même efficacité aujourd'hui où il est devenu de bon goût d'être spinoziste. Cela vous part d'un air profond, même si personne ne sait précisément ce que cela signifie. De quoi est-il question dans l'éthique? Le titre complet, en latin « Ethica ordine geometrico demonstrata », c'est-à-dire « éthique démontrée suivant l'ordre géométrique », met en lumière un trait commun avec les éléments de la loi naturelle et politique de Hobbes dont nous avons discuté dans un chapitre précédent. Les deux textes sont écrits selon la même méthode dite géométrique, mise en œuvre dans les éléments d'Euclide et que nous appelons aujourd'hui méthode axiomatique. Les éléments d'Euclide, rédigés vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, sont un traité de géométrie et d'arithmétique qui, par sa méthode, restera un modèle de rigueur inégalé jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il s'agit de poser, comme point de départ, un petit nombre de définitions et de propositions aussi simples et évidentes que possible, les axiomes, pour ensuite en déduire un grand nombre d'autres propositions, les théorèmes, censés être les conséquences nécessaires de ces définitions et axiomes. L'efficacité et la rigueur de cette méthode pour la géométrie devaient inspirer bon nombre de philosophes avec plus ou moins de succès. Hobbes et Spinoza sont, au XVIIe siècle, les meilleurs exemples de cette tentative d'axiomatiser la philosophie. Mais il faut reconnaître que leurs traités, portant sur des sujets plus difficiles à saisir par des définitions et axiomes que les points et grandeurs des géomètres, sont loin d'être aussi exacts et convaincants que leur modèle euclidien. Une des difficultés tient au fait que ce modèle euclidien est lui-même assez imparfait. De nombreuses étapes de démonstration chez Euclide reposent sur l'intuition ou sur des principes non formulés. Il faudra attendre la formalisation de la logique à la fin du XIXe siècle pour qu'une véritable méthode axiomatique voie le jour et que la géométrie euclidienne, ainsi que la plus grande part des mathématiques, soit complètement axiomatisée. À ma connaissance, par contre, ni les éléments de Hobbes ni l'éthique de Spinoza n'ont pu être reformulés sous une forme axiomatique rigoureuse. Et ce n'est pas faute de philosophes attachés à cette méthode. Edward Zalta, au XXe siècle, par exemple, a développé une impressionnante axiomatique métaphysique dans laquelle il a pu formaliser, entre autres choses, une large partie de la philosophie de Platon et de Leibniz, mais pas de Spinoza. La méthode axiomatique impose de construire son propos en partant du plus simple et fondamental pour aller au plus complexe et dérivé, si bien que les points de départ peuvent sembler étrangement éloignés du but général de l'ouvrage. Par exemple, alors que les éléments de la loi naturelle et politique de Hobbes ont pour objet la philosophie politique, toute la première moitié de l'ouvrage traite uniquement de biologie et de psychologie. Cela tient à ce que chaque niveau d'explication dépend du précédent. La formation d'un ordre politique est justifiée par des mécanismes psychologiques qui sont eux-mêmes expliqués par les mécanismes biologiques présentés au début de l'ouvrage. Autrement dit, la politique n'est que de la biologie appliquée. Et l'on pourrait ajouter que la biologie n'est que de la physique appliquée. De la même façon, l'éthique de Spinoza est assez claire quant à sa visée. Il s'agit de traiter la question éthique par excellence, comment mener sa vie. Mais parce qu'il la traite en suivant l'ordre des géomètres, ce n'est pas avant la quatrième partie sur cinq que cette dimension pratique prend une place importante. La partie précédente, intitulée « De l'origine et de la nature des affections », développe, dans un style d'ailleurs assez comparable à celui de Hobbes, une analyse des passions humaines, c'est-à-dire une sorte de théorie psychologique fondée sur les résultats de la deuxième partie, « De l'origine et de la nature de l'âme », qui étudie de multiples aspects des rapports entre l'âme et le corps, lesquels résultent des principes métaphysiques posés par Spinoza comme point de départ de tout l'ouvrage dans la première partie, sobrement intitulée « De Dieu ». On ne remontera pas plus loin. Le point de départ de l'éthique, donc, c'est cette chose infinie que Spinoza appelle « Dieu ». Pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais pas davantage le Dieu du premier philosophe théiste venu. À y regarder de plus près, le Dieu de Spinoza n'a pas grand-chose de Dieu, sinon le nom. Et si ce nom ne vous plaît pas, Spinoza en suggère lui-même un autre dans une formule qui le rendra aussi célèbre qu'infréquentable, « Deus sive natura », Dieu ou la nature. Spinoza le suggérait déjà dans le traité théologico-politique où il écrivait « Dire que tout se fait par les lois de la nature ou par le décret et le gouvernement de Dieu, c'est dire exactement la même chose. » Chapitre 3. La fameuse expression « Dieu ou la nature » n'apparaît pas dans la première partie de l'éthique consacrée à Dieu, mais à quatre reprises dans la quatrième partie. Le Dieu de Spinoza n'est donc pas le créateur du monde puisque c'est le monde. Il ne saurait donner l'existence à quoi que ce soit en dehors de lui, puisqu'il enferme en lui-même la totalité de ce qui existe. Tout existe en lui. Autrement dit, vous êtes un petit bout de Dieu et moi de même. Le chewing-gum collé sous ma chaussure depuis ce matin existe en Dieu. Rien d'extraordinaire, je viens seulement de dire que vous, moi et ce chewing-gum, nous sommes dans l'univers, petite partie de ce grand tout. Pour un lecteur contemporain athée, c'est banal à pleurer. Seul l'usage peu conventionnel du mot « Dieu » peut faire passer cette banalité pour un paradoxe. Les philosophes, et tout particulièrement Spinoza, nous jouent souvent de ces tours de passe-passe sémantiques. Bien sûr, Spinoza n'affirme pas immédiatement que Dieu est synonyme de nature. Il s'appuie sur une définition qu'un théologien ou un philosophe serait, au moins à première vue, enclin à accepter. Il écrit « J'entends par Dieu un être absolument infini ». Plus exactement, une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle infinie. Éthique, première partie, définition 6. Cela dit, l'approche la plus usuelle en théologie consiste plutôt à définir Dieu comme un être absolument parfait. Et c'est par un raisonnement habile qui tord le sens des termes juste autant qu'il faut que Spinoza déduit que cet être infini ne peut être que l'unique substance en laquelle absolument tout existe. L'argument, en très gros, consiste à faire valoir que si une autre substance existait, cela bornerait cet être infini qui ne serait donc plus infini. Mais n'entrons pas dans le détail de l'argument qui demanderait d'éclaircir un vocabulaire métaphysique que Spinoza emprunte à la tradition et à Descartes tout en le déformant largement. Passons. En outre, selon Spinoza, toute chose découle nécessairement de l'essence de Dieu, c'est-à-dire les lois de la nature, et non d'un libre choix. Dieu, comme son nom ne l'indique pas, n'a rien d'un être ayant une volonté que nous pourrions infléchir à force de prière. Ce n'est qu'un processus causal qui suit des lois s'appliquant immuablement à toute chose. Tout est soumis à ce déterminisme absolu, vous et moi compris. Pour reprendre une autre formule célèbre de Spinoza, l'homme dans la nature n'est pas comme un empire dans un empire. Nous avons l'illusion d'être libres dans nos actions seulement parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent à agir, mais notre comportement obéit en fait à la même nécessité implacable que le mouvement des planètes. En somme, Spinoza est athée et déterministe. Il n'y a ni Dieu, ni liberté, seulement un univers soumis à des lois nécessaires. Débrouillons-nous avec ça. Spinoza est parfois présenté comme un panthéiste, en ceci qu'il ne défend pas la thèse que Dieu n'existe pas, mais au contraire que Dieu est partout, qu'il est en toute chose, qu'il se confond avec l'univers même. En quoi est-ce différent? Athées et panthéistes sont d'accord sur ce qui existe, l'univers et rien d'autre, et notamment pas de créateur transcendant. Voir Dieu partout ne revient-il pas à le voir nulle part? La principale différence tiendrait au fait que le panthéiste sera enclin à considérer que la nature, puisqu'elle est divine, doit être sacrée, ce qui justifierait certaines attitudes religieuses à son égard, par exemple des formes de vénération. Or, Spinoza est justement opposé à toute religiosité de cette sorte. À ses yeux, il ne faut pas prier ou vénérer la nature, mais la comprendre, la connaître et tirer de la joie de cette connaissance. Il y a certes une dimension plus mystique qui transparaît dans la dernière partie de l'éthique avec cet énigmatique troisième genre de connaissance dont découle l'amour intellectuel de Dieu en lequel nous pourrions trouver une béatitude. Faut-il donner un sens religieux plus profond à tout cela? Les commentateurs ont bien du mal à y voir clair et le texte est assez étrange et ambigu pour que l'on puisse y voir tout et son contraire. Je ne m'y risquerai pas. Revenons à l'éthique. Après avoir expliqué ce qu'est et surtout n'est pas Dieu dans sa première partie, Spinoza ajoute un appendice qui deviendra l'un de ses textes les plus célèbres et dont je vais présenter quelques extraits pour conclure ce chapitre. Il y précise d'abord en quoi sa conception s'oppose aux préjugés ordinaires sur le sujet. Spinoza écrit « Tous les préjugés que j'entreprends de signaler ici dépendent d'ailleurs d'un seul, consistant en ce que les hommes supposent communément que toutes les choses de la nature agissent comme eux-mêmes en vue d'une fin et vont jusqu'à tenir pour certain que Dieu lui-même dirige tout vers une certaine fin. Ils disent en effet que Dieu a tout fait en vue de l'homme et qu'il a fait l'homme pour que l'homme lui rendît un culte. Spinoza, Éthique, appendice à la première partie. Dans la mesure où ce préjugé est au fondement des trois monothéismes et de la plupart des religions, Spinoza confirme, si l'on en doutait encore, le caractère profondément anti-religieux de l'ouvrage. Il poursuit en analysant de façon plus détaillée l'origine de cette tendance à l'anthropomorphisme, c'est-à-dire à projeter notre façon humaine de penser sur des choses ou des processus inanimés, et comment celle-ci nous mène à l'illusion qu'il y a un ou des dieux régissant la nature à notre avantage. Tous les hommes, écrit Spinoza, naissent sans aucune connaissance des choses et tous ont un appétit de rechercher ce qui leur est utile et en ont conscience. De là suit, premièrement, que les hommes se figurent être libres parce qu'ils ont conscience de leur volition et de leur appétit et ne pensent pas, même en rêve, aux causes par lesquelles ils sont disposés à appéter et à vouloir, n'en ayant aucune connaissance. Il suit, deuxièmement, que les hommes agissent toujours en vue d'une fin, savoir l'utile qu'ils appètent. D'où résulte qu'ils s'efforcent toujours uniquement à connaître les causes finales des choses accomplies et se tiennent en repos quand ils en sont informés, n'ayant plus aucune raison d'inquiétude. S'ils ne peuvent les apprendre d'un autre, leur seule ressource est de se rabattre sur eux-mêmes et de réfléchir aux fins par lesquelles ils ont coutume d'être déterminés à des actions semblables, et ainsi jugent-ils nécessairement de la complexion d'autrui par la leur. Comme, en outre, ils trouvent en eux-mêmes et hors d'eux un grand nombre de moyens contribuant grandement à l'atteinte de l'utile, ainsi par exemple des yeux pour voir, des dents pour mâcher, des herbes et des animaux pour l'alimentation, le soleil pour s'éclairer, la mer pour nourrir des poissons, ils en viennent à considérer toutes les choses existantes dans la nature comme des moyens à leur usage. Sachant d'ailleurs qu'ils ont trouvé ces moyens, mais ne les ont pas procurés, ils ont tiré de là un motif de croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui les a procurés pour qu'ils en fissent usage. Ils n'ont pu en effet, après avoir considéré les choses comme des moyens, croire qu'elles se sont faites elles-mêmes, mais tirant leur conclusion des moyens qu'ils ont accoutumé de se procurer, ils ont dû se persuader qu'il existait un ou plusieurs directeurs de la nature, doués de la liberté humaine, ayant pourvu à tous leurs besoins et tout fait pour leur usage. N'ayant jamais reçu au sujet de la complexion de ces êtres aucune information, ils ont dû aussi en juger d'après la leur propre. Et ainsi ont-ils admis que les dieux dirigent toutes choses pour l'usage des hommes afin de se les attacher et d'être tenus par eux dans le plus grand honneur. Par où il advint que tous, se référant à leur propre complexion, inventèrent divers moyens de rendre un culte à Dieu afin d'être aimés par lui par-dessus les autres et d'obtenir qu'il dirigeât la nature entière au profit de leur désir aveugle et de leur insatiable avidité. Spinoza, Éthique, appendice à la première partie. En somme, nul besoin que Dieu existe et interagisse avec nous pour expliquer que les êtres humains se sont mis à croire en des dieux et en l'efficacité de leurs prières. Les mécanismes de la psychologie humaine rendent inévitable l'émergence de telles croyances. Spinoza propose là, en quelque sorte, une généalogie de la superstition religieuse. Quoique tracée à gros traits, je la trouve encore convaincante aujourd'hui et je songe surtout à l'audace que cela représentait à l'époque de Spinoza. Soutenir publiquement une telle thèse, ce que Spinoza évita de faire en ne publiant pas le traité de son vivant, l'aurait exposé à être inquiété par toutes les autorités religieuses. Spinoza poursuit son appendice en critiquant les faiblesses de raisonnement dans la défense de cette conception de la nature selon laquelle toute chose est là pour une fin, et où il faudrait donc un agent divin derrière toutes ces fins. Expliqué par la volonté de Dieu, c'est se réfugier dans l'asile de l'ignorance. Spinoza écrit « Les sectateurs de cette doctrine qui ont voulu faire montre de leur talent en assignant les fins des choses ont, pour soutenir leur doctrine, introduit une nouvelle façon d'argumenter. La réduction non à l'impossible, mais à l'ignorance. Ce qui montre qu'il n'y avait pour eux aucun moyen d'argumenter. Si, par exemple, une pierre est tombée d'un toit sur la tête de quelqu'un et l'a tué, ils démontreront de la manière suivante que la pierre est tombée pour tuer cet homme. » Si elle n'est pas tombée à cette fin par la volonté de Dieu, comment tant de circonstances, et en effet il y en a souvent un grand concours, ont-elles pu se trouver par chance réunies? Peut-être direz-vous, cela est arrivé parce que le vent soufflait et que l'homme passait par là, Mais, insisteront-ils, pourquoi le vent soufflait-il à ce moment? Pourquoi l'homme passait-il par là à ce même instant? Si vous répondez alors, le vent s'est levé parce que la mer, le jour avant, par un temps encore calme, avait commencé à s'agiter, l'homme avait été invité par un ami. Ils insisteront de nouveau, car ils n'en finissent pas de poser des questions, pourquoi la mer était-elle agitée? Pourquoi l'homme a-t-il été invité pour tel moment? Et ils continueront ainsi de vous interroger sans relâche sur les causes des événements, jusqu'à ce que vous vous soyez réfugié dans la volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance. De même, quand ils voient la structure du corps humain, ils sont frappés d'un étonnement imbécile et, de ce qu'ils ignorent les causes d'un si bel arrangement, concluent qu'il n'est point formé mécaniquement, mais par un art divin ou surnaturel, et en telle façon qu'aucune partie ne nuise à l'autre. Et ainsi arrive-t-il que quiconque cherche les vraies causes des prodiges et s'applique à connaître en savant les choses de la nature, au lieu de s'en émerveiller comme un sot, est souvent tenu pour hérétique et impie, et proclamé tel par ceux que le vulgaire adore comme des interprètes de la nature et des dieux. Ils savent bien que détruire l'ignorance, c'est détruire l'étonnement imbécile, c'est-à-dire leur unique moyen de raisonner et de sauvegarder leur autorité. Spinoza, Éthique, appendice à la première partie. Ces remarques restent malheureusement d'actualité. C'est en effet encore bien souvent par un appel à l'ignorance et à l'émerveillement face au mystère et à la complexité de la vie que les défenseurs contemporains de l'intelligent design soutiennent leur position. Contre la théorie de l'évolution qui s'efforce d'expliquer le vivant par des processus aveugles et non par une finalité éclairée, les créationnistes ont beau jeu de faire valoir que les origines de la vie restent mystérieuses et les êtres vivants trop parfaits pour être le fruit du hasard. Puisque nous ne savons pas tout expliquer, il faut se réfugier dans la volonté de Dieu ou d'un créateur. Ou accepter avec Spinoza de sortir de cet asile de l'ignorance et s'efforcer de comprendre après s'être étonné. Quelques livres pour aller plus loin. Maxime Rovert, Le clan Spinoza, Flammarion, 2017. La vie de Spinoza et de son entourage admirablement restituée dans un roman érudit, entraînant, joyeux. Loin de la légende que ses premiers biographes ont contribué à bâtir, le Spinoza de Rovert n'est ni un martyr, ni un génie solitaire. En outre, l'auteur est philosophe avant d'être romancier, si bien qu'en dévorant son livre, vous avalerez au passage une excellente introduction à la pensée de Spinoza, ainsi que de beaucoup de ses contemporains. C'est en tout cas plus digeste que l'éthique démontrée suivant l'ordre géométrique, et cela pourrait vous mettre en appétit pour le lire ensuite. Baruch Spinoza, Éthique, Flammarion, collection GF, 1993. Ce n'est pas un livre facile à lire, certes, mais le voyage est fascinant, des premières définitions sur Dieu jusqu'aux dernières propositions sur la béatitude, en passant par toutes sortes d'étranges considérations, comme cette proposition 35 de la cinquième partie, « Dieu s'aime lui-même d'un amour intellectuel infini ». Je n'ai qu'une mince idée de ce qu'il faut comprendre par là, mais ce n'est pas que Dieu souffre de narcissisme. Notez que le plus intéressant dans l'éthique se trouve aussi à la périphérie du texte principal, préface, appendice, scolie. Tous ces à côté sont souvent plus riches et agréables à lire que les démonstrations morées-géométricaux qui forment la plus grande partie de l'ouvrage et que nous sautons bien souvent, avouons-le. Steven Nadler, Un livre forgé en enfer, H&O édition, 2018. Ce livre forgé en enfer, c'est le traité théologico-politique de Spinoza. Steven Nadler, l'un des plus grands spécialistes de Spinoza, également auteur d'une biographie de référence, présente ici l'histoire et l'impact de cet ouvrage scandaleux qui a participé à façonner la conception européenne moderne de la religion et de sa place dans la société.